شمايم بتغيل أرات بيمرو بقويم أمونا عمنا.
Bonjour Jean-François Froger.
Bonjour Père Éric.
Nous sommes heureux de vous retrouver pour poursuivre notre découverte de ce récit de la Genèse, ce premier livre de la Bible. Nous avons étudié lors de nos émissions précédentes un peu en détail ce que signifiait le premier jour de création. Nous ne reviendrons pas donc sur ce développement ou peut-être au cours du développement de ce jour. Et alors je réintroduirai donc simplement cette nouvelle émission donc qui est notre cinquième émission. Nous avons donc décrit la structure de la création et de la connaissance pour l'homme à travers quatre catégories. Qui sont les cieux, la terre, l'abîme et les eaux. Donc voilà, structure qui est au commencement, au principe. Je rappelle simplement un de ces principes qui est peut-être plus difficile pour nous, en tout cas pour l'homme, dans cette acceptation que l'abîme signifie quelque chose qui lui est inconnaissable et que vous avez illustré par notre propre intelligence qui ne nous est pas connaissable directement. Alors elle nous est révélée. Alors une première question. Dieu n'est-il pas inconnaissable dans le créé ? Et voilà, quelle est finalement notre appréhension possible de ce Dieu qui nous permet une connaissance en ce monde, mais qui reste inconnaissable peut-être lui, là où il est, et dans la perception que nous pouvons en avoir ?
Oui, alors, pour traiter directement de la connaissance de Dieu, il faudrait que nous avancions un peu plus dans le texte même de la Révélation, parce que tout ce qui va être dit de l'homme, et c'est essentiellement de ça dont il s'agit dans le récit de la création, tout ce qui va être dit de l'homme va nous permettre de comprendre par analogie des choses sur Dieu. Et il n'y a de connaissance de Dieu que révélée, mais dans un langage analogique. Et alors le gros problème est là. Donc la première chose que nous avons vue, c'est effectivement ces quatre catégories de la création et qui renseignent sur la façon dont l'homme connaît. Alors, il connaît par les choses ordonnées, qu'on va appeler les cieux. C'est l'image des cieux nous renvoie à l'ordre, comme on a vu dans les premières émissions. Ensuite, la terre qui est tohu vabohu, et qui est ordre et non-ordre, donc qu'on peut apprécier comme un certain désordre parfois. Bon, et les eaux qui ne comportent pas d'ordre, qui sont justement la chose évanescente, mais qui sont nécessaires aussi pour l'harmonie du tout. C'est là on ne pourrait rien connaître et on va le voir plus spécialement cette fois-ci, puisque le deuxième jour concerne très spécifiquement les eaux. Et enfin l'abîme, évidemment, où un voile de ténèbres couvre et donc duquel nous ne pouvons rien connaître et qui est une figure, effectivement, de ce que vous dites, l'inconnaissable. Et c'est un inconnaissable créé. Alors maintenant, quand on veut dire quelque chose de la connaissance que nous pourrions avoir de Dieu, c'est effectivement par analogie à la création que nous pouvons avoir une certaine connaissance de Dieu et que toute l'Écriture nous dit. Et donc, il y aura quatre analogies à examiner. L'analogie des lois, de l'ordre, qui reflète quelque chose du Créateur. Donc, il n'y a pas de l'ordre en Dieu, mais c'est Dieu qui est la source de tout ordre. Il y a quelque chose qui est le monde contingent, que nous voyons, le monde sensible, et qui est le livre d'images, en quelque sorte, qui est à notre disposition pour comprendre justement les analogies qui vont nous faire connaître quelque chose de Dieu. Évidemment, les choses potentielles, les choses des eaux, les choses des rêves, les choses des songes, tout ce qui est à peu près insaisissable, a aussi une certaine analogie en Dieu. Et enfin, évidemment, l'inconnaissable créé a une certaine analogie en Dieu qui, pour nous, alors, est un abîme inconnaissable aussi. Mais voyez que on peut pas passer tout à fait directement de nos actes de connaissance, aussi parfaits qu'ils soient dans les lois du monde, par exemple, ou de notre inconscience et de notre inconnaissance des choses du monde, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont inconnaissables, pas simplement qu'on ne connaît pas, mais qu'on ne peut pas connaître. Et simplement, ça nous avertit que certainement, par analogie, l'inconnaissabilité de Dieu est encore plus profonde. Bon. Mais tout nous dit aussi que beaucoup de choses sont connaissables. Et elles portent toutes, par analogie, une certaine connaissance du Créateur. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses que nous pouvons connaître de Dieu et un abîme d'inconnaissabilité aussi. Faut tenir les deux à la fois. Et quand on dit simplement que Dieu est inconnaissable, on dit une bêtise. Dieu est connaissable, mais évidemment par analogie et pas totalement. Et ça reste pour nous un abîme de mystère, évidemment.
Voilà, ce qui nous permet de comprendre aussi que, et c'est ce que nous avons vu aussi au cours de ce premier jour, Dieu nous révèle une connaissance pour l'homme. Dieu permet une connaissance, en tout cas pour l'homme, à travers une révélation. Donc ce paramètre reste aussi dans cette dimension d'inconnaissabilité de Dieu qui nous est nécessaire pour entrer nous-mêmes dans une connaissance de ce monde et, bon, et de Dieu lui-même, d'une certaine façon.
Ah oui, tout à fait.
Alors nous avons décrit l'acte créateur divin de séparation de la lumière et des ténèbres avec le premier jour. Alors que signifie cette seconde séparation au sein des eaux que Dieu va opérer le second jour ? Donc nouvelle étape dans cette construction de l'homme, puisque nous savons que ces six jours sont nécessaires pour faire de l'homme. Et que Dieu révèle-t-il dans ce nouveau contraste sur lui-même et sur l'homme ? Alors le mieux, ce serait que nous lisions peut-être le passage en question dans le livre de la Genèse. Nous vous écoutons.
Oui, alors je le lis avec une traduction assez littérale pour qu'on comprenne bien les répétitions et le rythme. « Et la divinité dit que soit un firmament au sein des eaux, et il y eut une séparation entre les eaux et les eaux. Et la divinité fit le firmament, et il sépara entre les eaux qui sont dessous le firmament, et entre les eaux qui sont dessus le firmament. Et ce fut ainsi. Et la divinité appela l'étendue, ou le firmament, cieux. Il y eut un soir, et il y eut un matin, jour deuxième. Donc nous entrons effectivement dans le deuxième jour.
Alors, l'eau nous renvoie bien sûr à ce que vous venez d'introduire en début d'émission, à ce qui est imaginaire, en tout cas les images, ce qui est fluctuant, ce qui change, ce qui est changeant. Alors quel type de séparation, devant quel type de séparation nous trouvons-nous désormais ?
Alors, c'est vraiment là le lieu d'une révélation, parce que, pris littéralement, le texte pourrait sembler n'avoir aucun sens, puisque nous sommes justement dans le domaine des eaux, de l'impalpable en quelque sorte, même si on peut toucher les eaux, mais il n'y a rien de consistant, et c'est ce que nous avons dit, sa signification profonde, c'est de nous mettre face à ce qui n'a pas d'ordre, donc à ce que dans le monde moderne on appelle l'aléatoire. Donc il y a de l'aléatoire dans le monde, du vrai aléatoire. Et donc on ne sait rien en dire, ou presque. On l'entoure, vous savez, par des lois statistiques, tout simplement, hein, comme dans la physique quantique. Bon. Et les probabilités. Donc c'est pas saisissable comme la Terre. Alors c'est, dans ces eaux, Dieu va instituer une séparation. Qu'est-ce qu'on peut bien séparer entre les eaux des eaux ? Alors, il faut d'abord voir que nous sommes le deuxième jour. Et parce que ça nous donne un contexte. Le jour unique, donc nous savons ce que c'est qu'un jour, nous ne le reprenons pas, mais nous avions vu que cette séparation de la lumière et des ténèbres, qui vont être appelés jour-nuit, nous met à même de comprendre ce qu'est un cycle et aussi à ce qui est non temporel. Pourquoi ? Parce que cette distinction du jour et de la nuit revient chaque jour et n'est pas proprement parlée différente chaque jour. C'est un acte qui dépasse le cycle. Donc, cela est une acquisition pour nous. C'est une des conditions de la connaissance humaine, ça va être de savoir distinguer la lumière de la nuit, avec tout ce que ça signifie au niveau de l'intelligence humaine. Alors maintenant, on est deuxième jour. Et il y a une petite chose qu'il faut savoir à partir de l'hébreu, c'est que c'est Yom Hasheni, et jour deuxième exactement. Et ce deuxième, ça, c'est la racine Shana. Et c'est un verbe, Shana, qui signifie répéter, réitérer, faire pour la deuxième fois. Donc, effectivement, le jour deuxième, c'est ce qui répète quelque chose du jour premier. Mais c'est aussi changer, différer. Et en étendant le sens de ce verbe dans la langue même, on va trouver le mot étudier, enseigner. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut rien étudier sinon en répétant. On voit une fois, c'est pas suffisant. Comme on entend une fois, ça n'est pas suffisant. Il faut entendre deux fois, trois fois, quatre fois. Il faut répéter souvent une chose avant d'être habile dans la façon de penser ou la façon de faire. Vous voulez raboter une planche, prenez un rabot la première fois, vous n'y arrivez pas. Ça accroche, vous faites n'importe quoi. Mais la énième fois, vous êtes devenu habile et vous faites un bon rabotage. C'est pas évident, hein. Alors, dans le deuxième jour, il y a de la répétition et du changement. Donc, nous allons voir tout de suite une répétition et un changement. C'est que cette idée de changement va être inscrite, même dans la langue hébraïque, dans le mot de l'année, qui se dit « Shana ». Tout le monde connaît quand même Rosh Hashanah, qui est en septembre. Qui est la tête de l'année, le premier de l'an. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se renouvelle vraiment, qui se répète ? C'est même pas les jours, ni les semaines, ni les mois, c'est l'année. Pourquoi ? Ben, c'est très simple, à cause du parcours de la Terre autour du Soleil. Là, ça fait un grand cycle, et c'est un cycle fondamental pour la nature, et puis pour nos vies. Et quand on dit notre âge, on dit pas le nombre de jours qu'on a vécu. Ça serait tout à fait possible. On dit le nombre d'années. Alors, on a vécu tant d'années. C'est-à-dire, la Terre a fait tant de fois le tour du Soleil. Bon. Qu'est-ce qu'on a fait pendant ce temps-là? Ça, c'est une autre affaire. Shana. Mais il y a un autre mot qui est très intéressant à bien comprendre parce que ça va nous enseigner pour la suite. C'est le mot « Shena ». C'est le même mot, mais prononcé autrement. Et ça veut dire le sommeil. On me dirait, mais qu'est-ce que le sommeil a à voir avec l'année et à voir le deuxième jour ? C'est très simple.
Ça nous rappelle en tout cas ce fameux sommeil de la nuit du premier jour.
Oui, un sommeil qui n'était pas encore un sommeil. C'était une nuit qui avait duré 9 mois. Parce qu'on rapporte le premier soir à la conception de l'homme.
Voilà.
Et le matin, à sa naissance. Donc, une nuit, ça peut durer longtemps. Mais alors, on reprend ceci, cette image. Parce qu'il faut d'abord regarder les images concrètes pour voir ensuite ce que, par analogie, elles enseignent. C'est toujours, l'Écriture sainte, c'est toujours ça. Donc, on regarde le deuxième soir. Il y eut un soir, il y eut un matin, et on arrive au deuxième soir. Et donc, au début du deuxième jour. Et qu'est-ce qu'on fait le soir quand on existe déjà? On s'endort. Ouais. Bon, on peut passer une nuit blanche, d'accord, mais en principe, c'est fait pour dormir. Et donc, ça va être le premier sommeil réel, le deuxième jour. Alors, on a dit que le soir était connoté fondamentalement, principiellement, par la conception. Évidemment, notre conception nous échappe complètement. On ne peut pas être conscient de ce qui nous fait exister avant d'exister. C'est impossible. Et donc, ça reste même inconscientisable à jamais. Jamais nous ne pourrons prendre conscience du moment où nous avons été créés. Même l'union des premiers gamètes. Ça, on le sait après, mais c'est de science seconde. Hein. C'est pas une expérience pour nous. Autrement dit, avoir été conçu n'est pas une expérience pour nous. Ce qui est une expérience pour nous, c'est de prendre conscience une fois qu'on existe. Et là, on peut prendre conscience de beaucoup de choses et on peut intelliger beaucoup de choses.
A posteriori.
A posteriori, bien sûr. Alors, mais puisqu'on refait, on retourne au point de notre conception, en quelque sorte, mais dans le sommeil. Alors, dans ce sommeil, il va se passer beaucoup de choses. Et ça va être un lieu de révélation, comme vous avez dit tout à l'heure. Hein? C'est pourquoi ? Parce que, comme au moment de la conception, dans le sommeil, on perd la maîtrise qu'on avait acquise dans l'éveil. Et donc, on est mutatis mutandis, comme au moment de sa propre conception. On n'y peut rien. Sauf que ce qui s'est passé dans le premier cycle va pouvoir être mémorisé. Alors nous allons explorer à fond cette idée.
Apprenons, si vous voulez bien, Jean-François, une première pause musicale. Nous écoutons donc une symphonie de Camille Saint-Saëns, une symphonie en la. Jean-François, nous reprenons notre exploration du second jour de la création. Donc vous nous disiez que la répétition, puisque nous en sommes au deuxième jour, ce renouvellement, nous dit quelque chose du souvenir nécessaire pour que l'homme puisse se construire. Et puis, bon, et peut-être aussi, il faudrait nous expliquer si finalement l'enseignement du premier jour est digéré dans cette nuit du second jour, cette nuit de l'inconnaissance, mais qui est aussi une nuit de maturation.
Oui, alors la deuxième fois c'est impossible, c'est pas suffisant, mais on regarde les principes qui vont être donnés à l'homme pour exister. Donc le premier jour on voit un principe de connaissance par le contraste. Le deuxième jour nous commençons à voir autre chose, on va voir une autre séparation et d'ailleurs un autre contraste, plus difficile. Alors il faut que ce qui a été acquis le premier jour reste acquis, bien sûr. Mais évidemment, c'est pas une simple répétition en tant que telle qui va faire qu'on a mémorisé ou acquis quelque chose. Il va falloir de nombreuses répétitions. Mais c'est le deuxième jour, ce qu'on nous présente, c'est le principe de la répétition. Donc, c'est comme disaient les anciens, la 101e fois qu'on entend la leçon n'est pas... pareil à la centième fois, qu'on lit dans les Pirkei Avot, dans le Talmud. Donc les leçons doivent être répétées 100 fois. 100 fois, remets ton ouvrage. Il y a un principe de répétition qui va être essentiel à la construction de l'homme. Et ce principe de répétition, nous allons le capitaliser, là aussi, pour voir d'autres choses, le troisième jour, quatrième jour, etc. Donc chaque jour va rester actif, comme un acquis qu'on n'efface pas, mais qu'on met en œuvre plutôt. Alors, le problème, c'est de voir quelle est la nouveauté dans la répétition. Puisque la répétition pure et simple n'aurait aucun sens. Il n'y a pas besoin de 6 jours si tout est donné le premier jour. Donc, le deuxième jour, on répète quelque chose du cycle, mais il va se passer quelque chose parce que c'est une répétition. Alors, dans cette répétition, on va essayer de saisir quelque chose qui renouvelle la distinction du premier et quelque chose de nouveau par rapport à cet pur renouvellement. Et pour ça, il faut regarder le texte. On l'a entendu, on va se le remettre en mémoire. C'est que le premier jour, c'est « Et Dieu dit que la lumière soit ». Et ici, « Et Dieu dit que l'étendue, le firmament, on va expliquer de quoi il s'agit, soit au sein des eaux. » Donc, il y a le même jussif, si vous voulez. Et le premier jour, « Et Dieu vit que la lumière était bonne. » Mais le deuxième jour, « Et la divinité fit cette étendue. » Ah là, il ne voit rien. Il fait ce qu'il a dit qui devait advenir. Alors que le premier jour, il n'avait rien fait. Les petites différences vont nous enseigner beaucoup de choses. Ensuite, même acte, et Dieu sépara la lumière des ténèbres, le premier jour, et ici, et Dieu sépara entre les eaux qui sont en dessous du rakia, de l'étendue, et les eaux qui sont en dessous. Donc là, il y a un acte de séparation. Donc même acte de séparation, mais dans un contexte différent.
Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer donc cette différence entre Dieu qui voit et Dieu qui fait, cet agir divin qui nous dit aussi forcément quelque chose sur l'agir potentiel de l'homme ?
Oui, c'est un... bien sûr que l'action divine ici n'est pas un acte de création. La création, elle est faite. Dans le principe, hein, Dieu créa les cieux et la terre était informée vide. C'est toute la première phrase. Maintenant, on nous raconte les 6 jours qui mènent à l'homme, c'est-à-dire de quoi va être fait l'homme. C'est évidemment un acte divin. Qu'est-ce qui construit la nature humaine ? C'est Dieu. Donc, qu'est-ce qui nous permet, par exemple, de connaître ? C'est Dieu. Et ici, donc, il va y avoir, par analogie, cette séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, c'est une chose qu'il va falloir que nous fassions, bien sûr. Donc, je le dis tout de suite, puisque vous le demandez, il va s'agir du gouvernement des choses. Donc, la capacité de gouverner. Mais n'allons pas trop vite. Examinons encore un petit peu la ressemblance entre les deux jours. Et il y a aussi une renomination des choses. Alors, c'est avec des variantes, parce que Dieu appela la lumière jour et la ténèbre nuit. Donc vous voyez, c'est deux choses, on a essayé déjà d'expliquer, avec des images que nous, on peut très bien connaître. Et ici, cette séparation des eaux avec les eaux, qu'on est loin d'avoir compris, il va falloir bien expliquer, on la nomme cieux. Et la renomination, là, est très spéciale. Donc, il y a quelque chose de semblable au premier jour, on renomme, mais cette fois-ci, on renomme ce qui vient d'advenir par le nom de quelque chose qui existe déjà. Parce voilà. Que jour et nuit n'existaient pas avant. Mais là, on va nous nommer ça cieux, mais les cieux... On sait ce que c'est.
Voilà, les auditeurs pourraient tout de suite repenser à ce que nous avons développé dans les émissions précédentes. Les eaux sont effectivement du côté du non-ordre, alors que oui. Les cieux nous parlent de l'ordre.
De l'ordre. Alors, la séparation qu'on va mettre dans les eaux.
Dans le non-ordre.
Dans l'aléatoire. Voilà. On va distinguer des choses dans ce qui n'est pas distinguable. Mmh. Ça fait bizarre en premier lieu. Mais on va voir que c'est une opération intellectuelle de première grandeur. Eh bien, c'est en y mettant de l'ordre. Et évidemment, ce que Dieu fait, c'est pour que nous le fassions. Donc ça va nous apprendre à gouverner le monde. Mais allons par étapes. Donc, les deux jours se copient l'un l'autre, d'une certaine façon. Le deuxième jour, on appelle donc cette séparation sur, remarquez bien que cette fois-ci, on nomme l'acte de séparer et non pas les deux choses séparées. Avant, on avait la lumière et les ténèbres, on nommait la ténèbre la lumière. Et maintenant, on sépare les eaux des eaux. Oui, mais on nomme la séparation. Vous voyez, il y a deux parties dans le jardin. Alors, on nomme, il y a intérieur et l'extérieur. Hein, ça, c'est la première séparation. Et là, il y a encore toujours le même jardin, mais cette fois-ci, on va nommer le mur qui sépare. Vous voyez, on va dire, bah tiens, oui, cette barrière, c'est planté d'if, par exemple. Bon, là, on nomme l'acte même qui sépare. Donc, on approfondit quelque chose du premier jour. Alors, ce premier jour, cette séparation qui est nommée, il faut regarder qu'est-ce qu'elle sépare et comment. Alors, il y a une expression qui, traduite en français, est à peu près incompréhensible, qui est de faire une séparation entre les eaux pour les eaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, derrière, il y a une expression hébraïque. Pour ceux qui connaissent l'hébreu, je vais le dire en hébreu. Ben maïm la maïm. Et il y a une construction qu'on retrouve plusieurs fois dans l'Écriture sainte. Donc, c'est comme ça qu'on comprend une langue, en regardant justement où ces choses paraissent. Et à chaque fois, il y a un mot sous-entendu, et ici aussi, qui est le mot « différence ». Par exemple, dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 19, verset 36, on a littéralement « Est-ce que je sais entre le bien et le mal ?» Alors évidemment, il faut traduire « Est-ce que je sais la différence qu'il y a entre le bien et le mal ?» De la même façon, par exemple, dans le livre des Maccabées, au chapitre 3, verset 18, on a « Et vous verrez entre le juste et le méchant. » Ah bon? Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, précisément, la différence entre ce qu'est un juste et ce qu'est un méchant. Donc, il faut supplier toujours la différence. Et là, fut la séparation entre les eaux vers les eaux. Alors, il faut dire, et fut la séparation, une différence entre les eaux et les eaux. Mais le mystère reste complet, vous voyez. Comment peut-on faire une différence entre de l'eau et de l'eau? Eh bien, la seule façon de donner une image concrète d'un acte intellectuel et spirituel. Pour nous, il y a des eaux séparées. Quand il y a les eaux qui coulent, ou la mer, ou le lac, et puis les eaux qui sont dans le ciel, évidemment, pour nous, les nuages, les nuées, etc. Et en général, on comprend que les eaux qui sont au-dessus du firmament, ben, c'est les nuages, et les eaux qui sont en dessous, c'est la mer.
Que les eaux reflètent les cieux.
Et alors, quand on regarde les eaux, on peut distinguer quelque chose d'autre, effectivement. Parce que là, j'ai donné l'image immédiate, les eaux qui sont au-dessus, les eaux qui sont en dessous. Et je redis l'image qui nous vient à nous. Mais ce n'est pas ce que signifie l'Écriture sainte. Parce qu'il suffit de regarder de l'eau. Et comme vous dites, quand on regarde de l'eau, qui est un peu calme évidemment, qu'est-ce qu'on voit? On voit le ciel qui se reflète. C'est le premier miroir possible d'ailleurs. Peut-être que c'est ça qui a donné l'idée du miroir aux hommes. C'est regarder une flaque d'eau et vous ne voyez pas ce qu'il y a en dessous, en fait, vous voyez ce qu'il y a au-dessus. Donc en regardant en bas, vous voyez ce qu'il y a en haut. Bon, ça, c'est une affaire très importante. D'ailleurs, quand on regarde dans un télescope, c'est exactement ce qu'on fait. On n'attrape pas un torticolis, grâce aux lentilles, on regarde plutôt vers le bas. Hein. Donc, ce qu'il nous faut comprendre, c'est pourquoi on utilise cette image du haut et du bas, pour pouvoir distinguer dans les eaux.
Alors je vous propose que nous restions avec cette interrogation en écoutant un second extrait de la symphonie de Camille Saint-Saëns. Jean-François, nous reprenons. Nous avons donc vu la dimension du temps lorsque nous avons analysé le premier jour, avec l'aspect cyclique de ce monde. Là, vous nous introduisez avec le second jour, avec une dimension haute et basse. Alors, est-ce que cela nous met en relation avec la dimension de l'espace de ce monde ?
Oui. Alors, c'est l'image immédiate qui vient. C'est que le haut et le bas nous obligent à quelque chose qui n'est pas cyclique, a priori, puisque c'est de la géométrie, là. C'est pas le soir et le matin qui reviennent, etc. Et simplement, il va falloir comprendre pourquoi c'est cette image-là qu'on prend pour dire concrètement une chose intelligible qui est la séparation des eaux avec les eaux. Donc, on donne en quelque sorte une image concrète avec les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Du coup, ça introduit le haut et le bas. Et il faut donc comprendre cette image concrète pour aboutir à ce qui est intelligible derrière. Et le haut et le bas, évidemment, n'ont de sens que par rapport au corps humain. Le haut et le bas n'existent pas en soi. Il n'y a pas de haut dans le monde, il n'y a pas de bas dans le monde. Et d'ailleurs, les petits-enfants ont un petit problème avec cette affaire, et c'est très drôle, on peut s'en souvenir, on l'a eu certainement, c'est que quand on prend conscience de son propre corps et que le bas, bah, c'est nos pieds, la terre, et le haut, c'est notre tête, les cieux, on dit oui, mais alors ceux qui sont de l'autre côté, de la terre est ronde, mais alors ils marchent la tête en bas. Hein? Alors tout le monde rit, il sourit, mais là, c'est une bonne question. C'est que l'enfant ne prend pas conscience, et ne peut pas d'ailleurs au départ, que le haut et le bas sont liés à son propre corps. C'est pas des choses du monde, c'est des choses de son corps. Alors si c'est son corps, eh ben on marche toujours la tête en haut, même quand on est de l'autre côté de la terre. Voilà. Et donc on va sortir de l'enfance, de laquelle on reste souvent assez longtemps, et pour comprendre, alors cette image au bas, ça signifie le corps humain. Ah, voilà une donnée nouvelle. Parce que on observait le jour et la nuit, alors ça, ça nous est extérieur d'une certaine façon, apparemment en tout cas. Mais le haut et le bas, alors là, on est vraiment impliqué. Donc ça construit l'homme. Donc c'est une orientation qu'il va avoir. Ah, bien sûr, matériellement, c'est dû à la gravité terrestre. Mais là, on est dans un livre d'images pour comprendre des choses intellectuel et spirituel. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? C'est que l'espace entre le haut et le bas va être appelé rakia. Rakia, c'est alors on traduit par firmamentum. Saint Jérôme l'a traduit comme ça. En grec, c'est stéréoma. Mais bon. Pourquoi Saint Jérôme a traduit par ce mot-là ? Ça veut dire ce qui est solide. Mais qu'est-ce qui est solide entre la terre et les cieux ? Il n'y a rien, il y a de l'air. Même les nuages, c'est pas solide. Le firmament, ça veut dire ce qui est solide. Alors, il faut pas faire une surinterprétation en disant « Ah oui, mais les anciens imaginaient une voûte solide au-dessus, etc. » Ils n'ont jamais imaginé des choses aussi sottes. D'abord parce qu'ils voyaient très bien comme nous. Hein ? Alors nous, on imagine des choses sur ce qu'imaginaient les anciens. Non, la chose solide qu'il y a entre la terre et les cieux, c'est notre propre corps. Donc, le rakia, c'est notre corps.
Qui nous permet d'observer, par exemple, la course du soleil, hein, qui va nous décrire aussi un mouvement dans l'espace, mais que l'on observe à travers son propre corps.
Voilà. Et du coup, on a vu que les cieux signifiaient l'ordre. C'est quelque chose de très abstrait, l'ordre. Hein, c'est l'ensemble des lois du monde, etc. C'est tout ce qui est nécessaire dans le monde, etc. Ah bon ? Alors, on dit que c'est notre corps qu'on va appeler, c'est une renomination, ce qui est solide et qui institue de l'ordre. Mais oui. Alors là, il faut réfléchir, il faut prendre un petit peu de temps. Et dire, mais qu'est-ce qui introduit de l'ordre dans le monde ? Mais c'est l'œuvre humaine. quand on envoie une sonde sur une comète, ça veut dire qu'on sait calculer déjà, parce que ça met 10 ans à faire des ronds et des ronds en utilisant la gravitation. Hein. C'est un prodige de calcul. Mais ça veut dire qu'on sait manipuler l'ordre du monde, et ce qui nous permet de calculer. Alors, on craint et on tremble aussi. Est-ce que ça va tomber juste? Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des petites variations, des petites perturbations au passage, et tomber juste, c'est miraculeux. Donc, ce qui a eu lieu là est absolument prodigieux. Au niveau du calcul, au niveau de la connaissance, c'est pratiquement nul. Mais au niveau de la performance technique, c'est prodigieux. Hein, il faut pas confondre. C'est pas de la science, hein, c'est de la technique. Alors, mais ça nous indique à quel point l'homme est capable d'utiliser l'ordre du monde. Mais pourquoi il peut l'utiliser, l'ordre du monde? Mais parce que il n'y était pas, ou il y en a, mais pas que.
Est-ce que c'est parce qu'il sépare les eaux, c'est-à-dire que dans l'aléatoire, il va séparer et mettre de l'ordre.
Voilà.
Construire le monde, le travailler.
On le travaille et on le transforme. Alors pourquoi? C'est qu'on va pouvoir mettre de l'ordre là où il n'y en a pas, où il y en a peu, disons. Parce qu'il n'y a nulle part où il n'y en a pas. C'est un mélange. La Terre, c'est tohu va-bohu, ordre et non-ordre. Et donc, ce que nous avons déjà dit, lorsque nous cultivons la Terre, nous mettons de l'ordre dans un champ, en le labourant. Pourquoi? Parce que ça va devenir plus productif que laisser la nature faire. La nature, c'est un immense foutoir. Hein? Il y a de l'ordre, mais on peut en rajouter. Hein? On peut tracer des lignes droites. Il n'y en a pas dans la nature, ou très très peu. Bon. Donc, il y a tout un champ d'activité où l'homme peut rajouter de l'ordre, mais il peut aussi en enlever. Hein? Et dans cette capacité à ajouter et à retrancher de l'ordre, c'est travailler justement parce qu'il y a du non-ordre, parce qu'il y a ce qu'on appelle le désordre, même en physique, le désordre moléculaire. Oui, on peut mettre de l'ordre là-dedans. Ou, quand on chauffe, on met du désordre. Eh bien, cette capacité-là, c'est précisément séparer les eaux des eaux. C'est une première approche. Ça nous fait comprendre que séparer les eaux des eaux, c'est bien le corps humain qui le fait. On va voir comment. Parce que c'est nous, par notre action. Et on agit dans le monde par le corps. Bien sûr qu'il y faut un peu d'intelligence aussi, mais elle a été veillée le premier jour.
C'est ce que j'allais dire, voilà. Tu as créé la lumière et donc qui nous dit cette capacité pour l'homme d'entrer dans une connaissance que Dieu lui révèle et qui lui permet de se mettre en activité peut-être le second jour. Alors c'est un peu raccourcir l'ensemble du développement, mais on sent une dynamique en tout cas de construction.
Parce que Dieu ne nous révèle pas la science. Il nous révèle qu'on est capable de faire de la science. Voilà, et c'est que ça. C'est bon.
Exactement.
Donc il faut pas être mesquin. On peut connaître le monde et la connaissance du monde est bonne. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire ensuite? Là, la morale, elle viendra après. Mais il faut arriver à ce que l'homme soit fabriqué. Il faut arriver ensuite à la notion de cette création parfaite de Dieu et à la chute. Alors, on va voir que ensuite, l'homme profite de sa capacité d'agir pour faire bien ou pour faire mal. Mais on n'en est pas là, de très loin.
Oui,
on est le deuxième jour. Il nous en faut au moins 6. Et ensuite, tout le récit de la chute pour comprendre ce qui se passe vraiment.
Je ne sais pas s'il est trop tôt pour le développer, mais probablement vous allez me dire. Mais de fait, on peut penser assez vite au déluge où il y a un mélange des eaux qui se fait. Et
puisque ça vous vient à l'esprit, à juste titre, qu'est-ce qui se passe au déluge? Au déluge, l'homme est devenu tellement mauvais que Dieu dit j'efface tout et je recommence. En gros, je simplifie là aussi. Bon.
Voilà,
et donc, on va ouvrir les eaux d'en bas, les fontaines, et les eaux d'en haut, le déluge. Donc les déluges, ça marche dans les deux sens, hein, d'en bas et d'en haut, quand on relit le texte.
Donc l'homme ne fait plus cette différence entre le juste et le méchant, comme vous citiez tout à l'heure le livre de Malachie.
Il fait plus la différence entre juste et méchant, et surtout il fait plus de différence du tout. Autrement dit, il est rentré dans la confusion mentale. Et le châtiment, ça c'est vrai dans toutes les Écritures. Quand on voit un châtiment qui vient de Dieu, c'est pour signifier l'erreur qui est commise. Car le châtiment est fait pour corriger une erreur. Donc s'il y a le déluge, on retourne au deuxième jour.
Pédagogie de Dieu.
Parce que ça veut dire vous n'avez pas bien accompli le deuxième jour. Vous ne savez pas mettre de l'ordre ou en enlever comme il faut.
Vous ne gouvernez pas.
Vous ne gouvernez pas correctement. Les hommes sont devenus méchants, c'est-à-dire ils sont devenus comme des bêtes, quoi. Hein? Et les bêtes, ben, ça s'entretue, ça, etc. Donc effectivement, le déluge, il y en a un qui est sauvé, c'est Noé, parce qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Hein? Alors, il faudra expliquer ça en son temps. Mais effectivement, le déluge, c'est le retour au deuxième jour parce qu'il y a quelque chose qui s'est détruit et qui n'est pas bien exercé. Remarquez bien que le retour à la confusion, le déluge, il arrive tous les jours. Et pas matériellement, bien sûr, même s'il y a des catastrophes climatiques. Mais quand quelqu'un retourne à la confusion mentale et ne sait plus distinguer le vrai du faux, le bien du mal,
le haut du bas,
soi-même d'avec autre chose, soit avec l'autre, en projetant à mort toutes les idées qu'il a sur l'autre. Ça, c'est la confusion. Donc, ça veut dire l'homme qui n'arrive même pas à agir le deuxième jour de sa création. Donc, effectivement, vous faites bien de précéder le texte, en quelque sorte, du déluge, qui vient bien après, mais qui, justement, montre qu'il faut rétablir, justement, cette art et cette force de la distinction pour pouvoir vivre.
Merci beaucoup Jean-François. Nous poursuivrons notre exploration du second jour lors de notre prochaine émission. À bientôt.
Merci Père Éric.